Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches, entre 11h et midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric, un long soleil, Villahermosa, Champoton, Campeche, Jaina, des noms qui font rêver, et puis une côte atlantique, toujours du côté du Mexique.
Nous sommes dans le golfe du Mexique, Maurice, mais où sommes-nous précisément ?
Eh bien, ce soleil va se situer entre notre dernier point de rencontre, qui était au sommet des Altos de Chiapas, c'est-à-dire nous sommes partis de San Cristóbal de las Casas, où nous sommes restés plusieurs soleils, plusieurs semaines. Mm-hmm. Et c'est vrai que lorsqu'on veut atteindre la côte du golfe, il n'y a qu'un moyen, c'est de prendre la route qui descend d'abord sur Tuxtla Gutiérrez, qui est la capitale de l'État de Chiapas. C'est une plongée presque verticale, puisqu'en moins de 30 ou 40 kilomètres, vous allez passer de 2500 mètres à 300 mètres d'altitude. Et c'est vrai qu'il y a quelques virage en épingle à cheveux. Et on pourrait continuer jusqu'au Rio Grijalva. Le Rio Grijalva, c'est vraiment la véritable coupure de cette Sierra Madre, qui est assez magique finalement, parce que c'est une rivière, un fleuve bientôt, qui prend sa source du côté atlantique et qu'est-ce que je raconte, du côté pacifique, hein, il faut que je mette les choses en place, et qui termine sa course carrément dans le golfe du Mexique, du côté atlantique. Et en l'occurrence, il a coupé avec les millions d'années de son travail très lent, toute la Sierra Madre. Et c'est peut-être un des canyons les plus profonds du Mexique, puisque à certains endroits, il atteint 800 à 900 mètres de profondeur. Et on l'a barré maintenant, parce qu'il y a de l'électricité dans l'État de Chiapas, il y a beaucoup d'eau, bien sûr, et c'est même la production la plus importante de tout le Mexique qui est donnée et offerte dans cette région. Et on a donc placé un barrage qui maintenant permet de circuler sur l'eau du Rio Grijalva, qui normalement était un fleuve extrêmement tourmenté avec des rapides et des difficultés monstrueuses. Alors c'est vrai qu'on peut le visiter, mais ce qui est impressionnant, c'est surtout cette descente que je viens d'évoquer, et puis la traversée.
On peut le visiter, mais on peut le visiter en étant sur l'eau.
On peut prendre un bateau et puis s'y balader.
Pas
forcément du rafting, puisque le barrage a carrément transformé cette rivière.
Donc
ce
plus
fleuve.
De rapide.
Non, pas sur cette zone-là. Après le barrage, bien sûr, ça recommence, mais on peut aujourd'hui aller jusqu'au sapin de Noël, qui est une espèce de formation rocheuse très étrange, qui est couverte de lichen, qui est couverte de mousse, parce que l'eau descend comme cela sur plusieurs centaines de mètres. Il y a des scènes absolument incroyables lorsqu'on arrive à prendre un canot moteur et éviter tous les troncs d'arbres et tout ce qui, naturellement, est resté derrière le barrage. Et on voit même d'ailleurs maintenant des alligators et certaines petites bestioles sympathiques. Mais ça n'est pas notre propos, puisqu'en fait on cherche à descendre par la route du côté atlantique, et qu'il faudra presque une journée pour passer de San Cristobal à Villahermosa. Villahermosa, on vient de changer d'état là tout à coup, on passe des Chiapas à l'état de Tabasco. Tabasco, bien sûr, ça évoque les épices, ça évoque la chaleur, ça évoque le pétrole aussi. Et passé Bochil, eh bien on va petit à petit, à coup de virage, terminer dans les premières grandes plantations. Vous avez des palmiers superbes, des bananiers, et on termine avant Villahermosa dans une zone où on a même planté du cacao, déjà à l'époque précolombienne, mais enfin aujourd'hui on peut voir des plantations complètes de cacao. Est-ce que vous avez déjà vu un cacaoyer, Frédéric ?
Jamais, non.
Alors, c'est un arbre assez curieux. Il n'est pas très haut. Il a les feuilles très lisses, assez... Oh, c'est un peu plus petit qu'une petite mimine d'enfant, comme ça, mais bien allongé. Mm-hmm. Et c'est un arbre qui a besoin d'ombre, en fait. Donc, il est souvent placé sous d'autres arbres. Et en l'occurrence, c'est un peu comme le café, je dirais, qu'on voit des plantations de cacao ou de cacaoyer sans qu'on imagine ce que c'est. C'est un tronc... C'est un arbre qui n'est pas très grand, qui a un tronc extrêmement lisse, comme ça, on a presque envie de caresser l'écorce. Et il a carrément des cosses qui sont attachées à ce tronc ou aux premières branches et qui sortent de façon presque spontanée, comme ça, de la masse de bois. Et c'est, la cosse, bon, c'est quand même assez gros, c'est plus gros que le poing, c'est de forme allongée, c'est même un peu strié. Et lorsqu'on la brise, quand c'est une cosse assez fraîche, eh bien à l'intérieur, vous avez naturellement les grandes graines, les fèves de cacao, qui elles-mêmes sont enveloppées dans une sorte de gélatine blanche, comme cela, qu'on peut d'ailleurs utiliser. Ça m'est souvent arrivé près d'une plantation d'être reçu par les gens qui vivent là ou qui surveillent la région. Et systématiquement, automatiquement, ils vous mettent ça dans ce qu'on appelle une licuadora, vous savez, les broyeurs, les grands mixeurs en verre, comme ça. On met à part les fèves qu'on pourra sécher et ensuite, bien sûr, exporter, parce que c'est le but. Mais cette matière humide, eh bien, vous pouvez la transformer en une sorte de sirop, comme ça. On en fait un frappé absolument extraordinaire. Ça vous rafraîchit déjà. Là, d'ailleurs, la température a changé. Vous êtes déjà à 30, 35, 40, 45 degrés certaines journées. Là, je parle des mois les plus chauds, juste avant la saison des pluies. C'est-à-dire...
Quels sont les mois les plus chauds?
Qui correspond à peu près à notre printemps, grosso modo. C'est-à-dire le mois d'avril, mai, juin sont les mois les plus chauds. Mais il ne faut pas oublier que, de toute façon, on arrive dans une région où il pleut à peu près 240, 250, 260 jours par année. Donc, c'est vraiment une des régions les plus humides du Mexique et les plus arrosées. C'est pour cela que vous pouvez suivre ce Rio Grijalva et le suivre dans les derniers méandres, comme ceci. Il ressemble déjà à un vrai fleuve, comme on imagine un petit Amazon. Et puis, vous en avez un autre qui arrive carrément de la région Maya, c'est-à-dire du Petén, des zones de jungle qui vont jusqu'au Guatemala. Ça, c'est le Rio Usumacinta, qui a été considéré comme une véritable autoroute, si je peux dire, à l'époque précolombienne, parce qu'on pouvait vraiment l'utiliser avec les canoës pour remonter ou descendre jusqu'au golfe, et puis ensuite continuer sur les côtes, comme nous allons le faire aujourd'hui. Alors, lorsqu'on arrive à Villahermosa, moi j'ai connu cette ville...
On se prend un bain de soleil aujourd'hui, non ?
Après, ça va être un bain de vapeur en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une certaine moiteur, une certaine touffeur même. En l'occurrence, on est très intrigué. Là, je parlais des palmiers, des plantations. Lorsqu'on voit... C'est une image qui m'est toujours restée dans le cerveau. Je me rappelle d'un moment donné où j'avais voulu... Enfin, on était plusieurs et on voulait tourner une image typique du Tabasco. Et pour moi, l'image typique du Tabasco, eh bien, c'est de l'herbe qui fait 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur. Vraiment des herbes qui paraissent encore plus profondes parce que le sol est complètement spongieux. Mmh. Et on enfonce très facilement dans ces marécages. Mais les bovins qu'on a réussi à acclimater à cette région sont habitués à cela. C'est une sorte de mélange entre le zébu et des vaches style un peu fribourgeois. C'est-à-dire qu'on a... c'est Nestlé d'ailleurs qui s'en est occupé. Il y a une grosse centrale laitière dans cet état de Tabasco, comme il y en a une aussi dans l'état des Chiapas. Et on a des troupeaux entiers comme ça qui pèsent dans cette herbe humide et qui ont de l'eau pratiquement jusqu'au nombril. Et le nombril est dessous.
Ça fait au moins un mètre, oui. En effet.
Facilement. Et en l'occurrence, j'avais voulu tourner des images... En 16 mm, comme ça, on était placé sur le bord de la route. Et puis bon, on dit, oh, il y a un superbe taureau, il y a tout un troupeau. Pourquoi est-ce qu'on ne les remettrait pas tous sous les palmiers, là, avec ces oiseaux? Il y a des aigrettes. Il y a souvent ces petits oiseaux blancs qu'ils ont sur le dos, ces piques-bœufs. Hein. Mm-hmm. Et en l'occurrence, ça fait une scène assez bucolique avec un très beau palmier qui était encore épargné par hasard, ou une ceiba, ces arbres géants qui montent jusqu'à 20 ou 30, 40 mètres même, avec des formes un peu en parasol, comme ça, qui ont été épargnés simplement parce que tout cela, c'était de la jungle auparavant. Et on a commencé à déboiser il y a à peine 40 ans pour l'agriculture, et puis maintenant je dirais qu'on continue à déboiser pour le pétrole. Il y a une espèce de mélange pétrole-bovin qui est assez curieux. C'est-à-dire vous pouvez passer carrément d'un puits de pétrole que vous voyez parfois même flamber avec les torchères qui sont au loin, et puis ces vaches qui pèsent. Alors j'avais simplement voulu ramener le troupeau complet, et naturellement j'avais confondu une vache avec un taureau, et là je vous assure que j'ai couru tellement vite que c'était le cauchemar absolu. Vous savez, quand on est pris comme ça dans la boue, qu'on a déjà de la boue jusqu'au genou et qu'on peut pas avancer, mais le taureau, lui, a l'habitude et il court, il arrive. Faites attention, vous allez sauter la barrière.
Me the power to keep up the fight, oh, Lord.
sommes dans les marécages jusqu'aux hanches, comme ça.
En musique,
ça
en
commence,
plus.
En musique, ça commence à coller, alors on poursuit notre route.
C'est incroyable, cette boue, là. C'est vrai que c'est... quand je parlais du cauchemar tout à l'heure, je vous assure que le fil de fer barbelé qui était au bout du pâturage, je crois que ça m'est jamais arrivé d'en sauter un aussi facilement. Mais je ne pouvais pas décoller les pieds en même temps que j'avais envie de sauter. C'est une scène d'horreur. Hein.
Ouais, j'imagine,
Et puis les taureaux, vous savez que c'est pas mal. Hein. Ça m'est arrivé d'en croiser un ou deux dans ma vie, mais celui-ci, je l'ai senti d'assez près, comme ça. Et quand on arrive à Villahermosa, donc, c'est une ville assez indifférente pour moi, dans la mesure où, je l'ai connue peut-être avec 40 000 habitants aujourd'hui, et elle a débordé les 200 000 il y a à peine quelques années, elle arrive déjà à 400 000, c'est uniquement le pétrole, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la ville western. Au point de vue monumental, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que...
Le Mexique est très riche au
niveau du pétrole. Ah oui, c'est une des immenses réserves du monde. Les États-Unis ont été assez jaloux à l'époque. Et d'ailleurs, les plans quinquennaux qui avaient été montés avec une idée très inflationniste il y a quelques années ont un peu échoué parce que les États-Unis ont un peu serré la vis. Mmh. Ça se redesserre un peu maintenant. Mais enfin, il y a eu un investissement monstrueux. Et il y a eu, vous vous rappelez, tous ces puits justement de la région qu'on va traverser maintenant et ce fameux puits qui était au large des côtes et qui a brûlé pendant des années en pleine mer et qui a pollué pratiquement tout le golfe. Hein. En l'occurrence, quand on arrive du côté de Villahermosa, c'est ce qu'on voit le plus. Ce sont ces torchères et cette ambiance assez curieuse. Et puis, flâner dans cette ville, c'est d'abord découvrir le Rio Grijalva qu'on va traverser. Il y a une sorte de quai comme cela, avec une eau assez langoureuse, assez triste même. Il y a toujours ces jacinthes d'eau qui traînent un peu en surface, ce côté très brunâtre. C'est vraiment l'idée qu'on se fait des tropiques. On pourrait retrouver ça en Afrique, en Asie, mais c'est une ambiance... Qui est tellement nonchalante que finalement il n'y a rien à visiter, mais on s'y sent relativement bien. Bien sûr, il y a le parc archéologique de la Venta.
Avec c'est une grande ville, Villahermosa.
400 000 habitants, c'est énorme, je veux dire, pour quelque chose qui est perdu comme ça en plein état du Tabasco. C'est la capitale de l'état même. Et on blague toujours au Mexique, on dit qu'elle n'a rien de Villa et rien d'Hermosa. Ça veut dire rien d'une ville et rien de beau, de charmant, de mignon. Et finalement, je dirais qu'à part le parc archéologique de la Venta, son très beau musée, le parc archéologique de la Venta, c'est bien sûr les pièces Olmec qui ont été récupérées à peu près 100 km de là, quand on remonte sur la côte du côté de Veracruz. On les a ramenées en hélicoptère dans les années 40 pour en faire une sorte de parc naturel, enfin aménagé bien sûr, en bordure du Rio Grijalva. Alors on a rajouté quelques petits alligators, un très beau jaguar à l'entrée, il y a des singes qui viennent manger dans vos mains, il y a des petits tapirs et toutes sortes de pécaris qui rôdent dans un parc qui est vraiment fermé, clôturé. Ça tient à la fois du parc zoologique pour enfants et en même temps vous avez ces pièces, ces grandes têtes géantes de plus de 2 mètres de haut. C'est assez impressionnant et surtout ces fûts de basalte et toutes ces pièces. Il y a par exemple une mosaïque assez incroyable qui est faite de plus de 400 pièces de serpentine qui ont été posées comme cela sur le sol mais qui ont été trouvées à des mètres et des mètres de profondeur enterrées par les Olmecs. Et ça forme la tête d'un jaguar si on regarde d'un côté. Et si on se retourne avec les yeux et puis les traits qu'on a voulu marquer, et les points, on lit le chiffre 9 qui est le chiffre même qui représente le jaguar. Enfin, c'est un spectacle, disons, de se balader comme ça dans les ruelles, les sentiers du parc de la Venta. Et puis un très beau musée aussi de l'état du Tabasco. En dehors de cela, il y a une place, des gens qui s'assoient, qui se lèvent, qui boivent, qui mangent, qui boivent et qui vivent leur petite vie paisible des tropiques. Alors, je ne vais peut-être pas m'arrêter à Villahermosa, mais imaginons la carte, on est en plein dans l'arrondi de ce golfe du Mexique, et puis sur notre droite, eh bien, mentalement, il y a cette énorme péninsule du Yucatan qui commence. Alors quand on se laisse aller par la route, eh bien, on va traverser des endroits qui sont assez communs finalement, et on aura de longues routes droites. Auparavant, c'était, je me rappelle de mes premières expéditions dans le coin, eh bien, on était obligé de passer tout au bord de la mer, et systématiquement on était arrêté par un bac. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre plusieurs jours pour arriver jusqu'au Yucatan, tout simplement parce que systématiquement, avec une tempête, avec un peu de pluie, eh bien, ces bacs ne fonctionnaient pas et vous attendiez comme ça, avec des fils et des fils de camions et de voitures, pour pouvoir aller plus loin entre Villahermosa et Campeche. Alors aujourd'hui, c'est plus facile.
C'est combien de kilomètres Campeche de
Villahermosa? Disons, grosso modo, si vous comptez, on est à 150 kilomètres de Palenque, qui est aussi un site somptueux qui se trouve plutôt à l'intérieur, encore au pied de la jungle et de la Sierra Madre. Et si vous partez de Villahermosa et que vous allez jusqu'à Campeche, vous avez 451 kilomètres 500.
Précisément.
Non, c'est une blague, mais il y a 450 km. Uh-huh. Donc c'est une longue distance et qui n'est pas très sympathique, mais il faut compter à peu près, je sais pas, 2 heures jusqu'à Palenque. Ça, c'est pour une visite qui correspondrait bien à une forme touristique normale. C'est vraiment un 3 étoilles du Mexique, hein. C'est un des plus beaux sites mayas qui existent. Mais si vous passez d'un seul coup sur la route principale, qui est extrêmement fréquentée, il y a des centaines de camions qui vous dépassent. Vous en trouvez à la fois sur la route et à côté de la route quand ils vont un peu trop vite. Là, j'avoue que c'est un endroit où il faut avoir une certaine prudence. J'entends, quand on a sa propre voiture de location, par exemple, eh bien là, je dirais que je le fais d'abord de jour, parce qu'il peut y avoir encore un cycliste en plus des camions. Et ce sont des routes qui sont belles, mais qui ont souvent une forme un peu curieuse. J'entends par là, elles peuvent être en ronde-bosse tout simplement parce qu'il pleut trop, ou alors avoir certains nids de poules. Et quand vous avez des tonnes et des tonnes qui passent tous les jours là-dessus, et quand je dis des tonnes, c'est bien sûr des gros tonnes, des gros tonnages sur le plan... circulation, eh bien, obligatoirement, la route s'abîme très vite. Avec les pluies tropicales, vous avez des nids de poules qui peuvent se faire tous les mètres, donc circuler lentement, bah, tout bien. Aujourd'hui, le soleil peut durer 5h30 si vous allez jusqu'à Campeche en ligne droite depuis Villahermosa. Gently in his rocking chair, gazing at this land he owns. And there he sees his memories, and there his past. And there he smiles his grim smile, strokes his gun, swears he'll make it last. Someone brings a whiskey, someone serves the meal. Like there's someone in the township, in the mines, and in the fields. Someone at the graveyard, someone with their tears, someone who can't forget the freedom lost these 100 years. Oh man, you can boast about the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you could for all your care fears yet. And your guns come by, and your prisons fill, and your yards are rope for hanging still. But your guns can shoot and never hit the sky. And there's no rope as long as time. Prison, Biko in the ground. Sharpville and Soweto voices, silence till the end of time. Freedom don't come easy, don't come bloodless, don't come fast. But in the hearts of the countless people, no past laws gonna stop us past. Oh man, you can boast about the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you're good for all your care fears yet. And your guns can fire, and your prisons fill, and your yards are rope for hanging still. But your guns can shoot and never hit the sky. Sometimes you talk of reasons, economy and cause. Sometimes you'll even talk of changes, though we class the gun and he talks of law. About the gun that's by your bed. Oh man, you can tell me how you're good for all your care fears yet. And your guns can fire, and your prisons fill, and your yards are rope for hanging still. But your guns can shoot and never hit the sky. And there's no rope as long as time. We'll be right back.
On a quitté Villa de Mossa, on se dirige du côté de Campeche. Décrivez-moi un petit peu le parcours. Nous sommes dans les tropiques.
Oui, si on était parti de Villahermosa, je pense que le premier événement comme cela, ce serait peut-être le passage du Rio Sumacinta dont je parlais tout à l'heure. Là, il a quelque chose de fabuleux. C'est vraiment le fleuve large et tranquille. Et bon, mais il faut savoir que si vous le remontiez à une centaine de kilomètres, vous seriez déjà en train de marquer la frontière entre le Mexique et le Guatemala. C'est-à-dire qu'il va suivre cette frontière très longtemps et il provient en fait des hauts sommets du Guatemala, c'est-à-dire de la partie à la fois volcanique et montagneuse du Guatemala. Puis il est descendu, il s'est transformé, il s'appelait Rio Chicxoy, et puis ensuite Usumacinta. Et quand j'ai dit que c'était l'autoroute des Mayas tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des sites absolument somptueux le long de cette voie, et particulièrement dans une boucle complètement fermée, ou presque fermée, de l'Usumacinta. Il y a le site de Yaxchilan, qui est carrément construit sur une colline. C'est une cascade de pyramides et de palais. C'est vraiment merveilleux à visiter. On peut y aller en pirogue, on peut y aller en avion, on peut y aller maintenant par bout, interposé par des pistes, parce qu'on a créé toutes sortes de routes le long de cette frontière. Et bien sûr, toutes les routes nouvelles...
C'est très touristique.
C'est assez touristique. Non, Yaxchilan, c'est déjà une expédition. Hein. Mm-hmm. Mais par rapport à Palenque, qu'on peut atteindre sans problème par une bonne route asphaltée. Mais il faut quand même comprendre que tout ce qu'on fait aujourd'hui comme trajet, c'est nouveau. Quand je dis c'est nouveau, ce sont des routes qui ont quelques dizaines d'années. J'ai parlé de la circulation tout à l'heure. Elle est très dense, elle n'est pas plus dangereuse qu'ailleurs, parce que les routes sont assez bonnes malgré tout. Tout simplement parce que c'est la seule voie de transit, Villahermosa-Mérida, tout en haut de la péninsule. Toute la péninsule du Yucatan est alimentée par cette route. Et puis il y a tout à coup un embranchement qui vous permet de rejoindre le Belize sur la droite. Et là, ce sera le croisement suivant du côté d'Escárcega. Et je dirais qu'Escárcega, c'est assez curieux parce que ça s'appelle Francisco Escárcega. C'est une ville complètement neuve, c'est vraiment l'endroit où on trouve 3 motels, une dizaine de petits restaurants, de rien du tout, une station d'essence. Faites-le plein de temps en temps, ça vaut la peine, parce que c'est vrai que les distances sont longues. Sans s'en rendre compte, on a déjà fait 300 km sur notre route. Et en l'occurrence, là tout à l'heure, au 150e, on a passé notre Usumacinta. C'est un spectacle vraiment remarquable, mais plus loin, il y a par exemple des régions qui sont restées dans ma mémoire. C'est-à-dire, vous avez des lagunes absolument incroyable, avec des milliers d'oiseaux aquatiques partout. Je parlais des jacinthes d'eau, je parlais de ses couleurs. Il y a toujours des fleurs et des choses curieuses comme ça qui nagent en surface. Et vous avez certaines eaux qui sont carrément rouges, parce que la terre elle-même peut être rouge. Hein. Elle n'est pas très visible parce qu'il y a trop de végétation. Et je vous ai dit qu'on avait enlevé la jungle et que maintenant il y a plutôt de l'herbe qui pousse un peu partout. Mais c'est cette impression d'avoir à peine défriché. On a cette impression que tout est neuf. C'est vraiment le pays de... Je parlais du western, c'est un western tropical, mais c'est vraiment un western tropical. Et en l'occurrence, maintenant, si vous avancez petit à petit, à peu près à 400 km, un peu moins, 380 ou quelque chose comme ça sur votre route, vous allez rejoindre pour la première fois le côté maritime, c'est-à-dire qu'on va toucher l'Atlantique. Alors on est très troublé de voir que ce sont des vagues assez douces, en bonne saison, mais surtout que il y a un côté un peu limoneux comme ça. Le bord de mer, c'est vraiment les vieilles barques colorées avec des centaines de pêcheurs qui se préparent à partir très tôt le matin, même de nuit, et qui reviennent avec leurs poissons. Il y a la crevette, il y a la langouste, il y a tout ce qu'on veut dans le golfe du Mexique. Et vous avez des plages entières comme ça, très sobres, très simples. On n'a pas forcément envie de s'y baigner parce qu'il y a justement ce côté un peu limoneux. La mer est très souvent brune, très souvent brassée, puisqu'il y a quand même, quand je dis 200 jours de pluie, ça signifie qu'il y a du vent, qu'il peut y avoir aussi quelques mini-ouragans qui se baladent par là selon le moment de l'année. Et ce qui est troublant, c'est surtout ces alignements de centaines de bateaux posés simplement sur une plage avec un village qui ressemble à rien. Et un peu plus loin, vous allez tomber sur Champoton. Alors Champoton, c'est une véritable ville préhispanique, mais c'était d'abord la capitale d'une petite zone indienne lorsque les premiers Espagnols sont arrivés. Et si on parle de cet endroit, c'est parce qu'il y a eu toutes sortes de combats et de choses curieuses au Yucatan sur le plan maya. Il y a eu une sorte de ligue qui s'était faite autour de Mayapan et les gens sont venus se réfugier dans cette région. Et on dit même que les Itzare, ou les Itze, les Itzare, ceux qui vivaient à Chichen Itza, qui est quand même un site très très connu là-bas au sommet de la péninsule, à 40 km de la mer, on n'est pas loin des Caraïbes non plus, c'est la ligne qui va de Mérida à Cancun. Eh bien, les Itzas seraient partis un jour de cette région du puits des Itzas, et seraient descendus jusqu'à Champoton. Et on a toute une légende là, qui correspondrait à peu près à notre 10e siècle, où on dit que Ceacatl, Quetzalcoatl, c'est celui qui s'appelait un roseau serpent à plumes précieuses, serait venu, qui était le roi de Tula, donc près de Mexico, serait venu ici et qu'il aurait pris donc tout le nord du Yucatan et qu'il aurait fait une sorte de retrait à Champoton avec ses populations d'origine toltèque, d'origine mexicaine, et qu'au départ il aurait fondé donc Champoton avant d'occuper cette région par des populations nouvelles, celles des Chiou, qui correspondent au site archéologique d'aujourd'hui, c'est-à-dire à Uxmal. Simplement pour vous montrer que c'est une zone qui a été très habitée, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et j'ai même envie d'accentuer le problème à cette première date importante qui remonte à 1517, puisque c'est là qu'une expédition espagnole, bien sûr, dirigée par Francisco de Córdoba, est arrivée avec Bernal Díaz del Castillo, qui était le secrétaire de Cortés, celui qui a tout noté, celui qui nous raconte tout. Eh bien, il a débarqué à Champoton. Donc c'est resté un lieu un peu mythique, et ils ont été immédiatement attaqués par des indigènes. Il y a eu des troubles terribles. Les Espagnols auront de très très grosses difficultés à repartir, parce que vous comprenez bien que chaque fois qu'on abordait comme cela, qu'on descendait le long de ces plages, l'obsession de l'Espagnol sur sa caravelle, c'était de trouver de l'eau. Alors on s'arrêtait systématiquement quand on voyait un bout de rivière, quand on voyait quelque chose, quand on voyait quelques habitations, eh bien on se disait, tiens, là on va trouver de la nourriture et de l'eau. Et ils se sont arrêtés et finalement ils ont eu une attaque absolument effroyable, ils ont dû s'enfuir. Donc le premier souvenir espagnol de Champoton, c'est d'abord la défaite et surtout le fait d'avoir ramassé une bonne raclée. Les Mayas ont toujours été très doués pour ce genre de choses vis-à-vis des Espagnols.
Thank you.
sommes à Champoton.
Champoton, oui, Champoton. Ça s'appelait Champoutoun avant. C'est joli, Champoutoun.
Donc sur la route de Campeche, oui. Dans le Yucatan. Vous parliez des Espagnols tout à l'heure, Maurice. C'est eux qui ont créé cette ville ?
Oui, parce que enfin, elle existait de manière précolombienne. Mais quand vous dites Yucatan, il faut être prudent parce que, en fait, on est dans l'état du Campeche. C'est un état qui a été conçu assez tard, c'est vrai. Il a été, je crois, fondé. La ville de Campeche a reçu son titre de capitale, je crois, en 1858 ou quelque chose comme ça. On va y arriver tout à l'heure. Mais Champoton, en résumé, il y a eu donc d'abord ce fameux Quetzalcoatl sous la forme d'un roi un peu mythique qui serait là entre le 8e et le 10e siècle et qui ensuite monte, fait sa conquête du Yucatan et grimpe plus haut avant que ce même endroit soit réoccupé par les gens d'Uxmal, les fameux Chious. Mais vous avez évoqué les Espagnols, vous avez raison, on est venu en 1517, on est reparti en courant plus exactement. Alors là, c'est vraiment un peu comme mon taureau tout à l'heure. Vous remontez sur vos caravelles en courant sur la plage, en fuyant ces centaines, ces milliers d'Indiens qui vous attaquent, et on reprend les chaloupes et on remonte, et tant pis si on n'a pas d'eau. Ça est arrivé un peu partout le long de cette côte. Alors c'est seulement en 1530 que les Espagnols sont revenus et ont utilisé Champoton comme premier point de départ et d'attaque de toute la péninsule. Et je dirais que là, il y a eu un certain échec. C'est Francisco de Montejo, qui est très connu lorsqu'on visite la ville de Mérida, parce que c'est le premier qui a osé s'attaquer aux Mayas. Et puis à son fils, qu'on appelle le jeune El Mozo, qui lui est arrivé un peu plus tard à Champoton en 1541, et il a fondé la véritable ville comme elle existe aujourd'hui, si vous voulez. Il y a déjà eu quelques couvents, quelques petites églises auparavant, mais c'est le point de départ de la véritable prise du Yucatan. Donc à partir de 1541, c'est la troisième grande expédition, et celle-là va réussir puisqu'on va petit à petit arriver à s'établir tout là-haut du côté de Mérida et prendre l'ensemble. Les Monteros vont s'installer dans la ville même de Mérida. Alors Champoton, ça n'a pas beaucoup de charme, mais il y a toujours ce côté un peu tropical. Un petit peu plus loin, vous avez un petit port que j'adore qui s'appelle Lerma. Une petite ville qui est comme ça, juste en bordure de plage.
Elle vit de quoi, cette ville ?
Il y a quelques vieilles maisons assez pittoresques et de nouveau des centaines de bateaux alignés le long de cette plage entre le gris, le brun et le beige. On a l'impression de quelque chose d'abandonné. Toute cette région que l'on visite maintenant, le Campeche, donne cet esprit qu'on pouvait ressentir au Mexique au 18e, au 19e. Il ne faut pas oublier que jusqu'au 20e siècle, il n'y avait pas de route. Tout à l'heure, je prenais des bacs, mais c'était déjà une chose récente. Or, avant, on pouvait arriver par bateau, par le nord.
C'était uniquement que par la mer.
Et puis, éventuellement, par le train. Le train qui, lui, descendait toute la péninsule pour rejoindre justement Tenosique, Palenque et remonter ensuite du côté de Veracruz pour rejoindre la capitale. Donc c'était vraiment l'aventure absolue d'aller au Yucatan. Même Charlotte, la grande impératrice, eh bien, elle y allait en bateau. Elle prenait une goélette depuis Veracruz et puis elle débarquait tout à fait au nord. Donc on oubliait pratiquement toutes ces petites villes perdues le long du golfe. Et quand on arrive à Campeche, là, votre kilomètre 451-500, on blaguait tout à l'heure, mais à 450 km de notre point de départ de Villahermosa, on arrive dans une ville qui est quand même importante. Là, on est surpris par la grandeur de l'endroit. Ça a quand même plus de 200 000 habitants.
Alors là, on est complètement contre la mer, là. On est sur la côte.
Non seulement on est sur la côte, mais c'est vraiment une ville qui, auparavant, a existé de façon hispanique, c'est-à-dire avec des protections. Et c'est peut-être la chose la plus intéressante à visiter à Campeche, parce que je vous ai parlé de l'établissement de la province du Yucatan qui a été coupée et qui a été séparée en trois états. Il y avait un territoire qui était le Quintana Roo. On connaît le Quintana Roo à cause de Cancun, surtout. Et puis, vous avez une sorte de triangle qui fait le haut, qui est devenu l'état du Yucatan, dont la capitale est Mérida. Et puis, vous avez cet état du Campeche qui descend assez bas et qui touche le Tabasco et qui, lui, a eu comme capitale naturellement Campeche. Alors, moi, ce que j'aime dans cet endroit, c'est que, en fait, il y a surtout de la mélancolie. On a l'impression que les gens qui vivent là savent qu'ils sont d'ailleurs et qu'ils sont séparés du reste du pays. Il y a aussi ce charme qu'on retrouve dans tous les lieux qui ont cette évanescence, qui ont cette espèce de... C'est une ville fantôme en même temps, même si elle est vivante parce qu'elle a 200 000 habitants, on a l'impression qu'elle est en dehors du temps. Et si je vais dans un endroit comme ça et si j'y reste, c'est pas pour évoquer le commerce du bois, hein, parce que quand on dit bois de Campeche, ça vous rappelle les œufs de Pâques
Non,
même pas.
Même pas, non.
Vous savez que les petits morceaux de bois de Campeche qui ont un ton un peu jaune, rougeâtre, comme ça, il suffit de les mettre avec un peu de je crois qu'on met du vinaigre ou de l'eau chaude. Enfin, je sais plus quel mélange on faisait quand j'étais gosse. Et obligatoirement, ça vous donne une teinture, cette fameuse teinture de Campeche qui a été utilisée pendant des décennies et des décennies. On exportait ce bois de Campeche, d'où le nom de cette ville, pour la teinture. Et en l'occurrence, dans cette région, eh bien, il y a eu ce commerce du bois exotique, bien sûr. Et finalement, je dirais qu'on l'a extrait après, surtout pour l'Europe, mais il y a eu des exportations incroyables aux États-Unis. Et on en extrayait une matière qui est assez curieuse, qu'on appelle la matière tinctorial, hein, donc c'est bien l'idée de la teinture, c'est en fait de l'hématéine, pour être encore plus scientifique et précis. Ça vous va, Frédéric?
Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours, I want to know about one special secret. Tonight I want to learn all about the secrets in your garden.
I wanna read your mind, know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show
à Campeche.
De vieilles demeures.
Vous me disiez tout à l'heure que c'était une ville fantôme, en fait.
Mais pas, elle, pas vraiment.
Elle vit de quoi ?
Elle a été fantôme.
Elle a été fantôme.
Oui, je veux dire par là que c'est vrai quand on voit ce style colonial, ces vieilles demeures du 18e, du 19e, et puis il y a surtout, alors, bien sûr qu'elle a eu une espèce de rebondissement comme ça au moment du pétrole, dans les années 80, on a l'impression qu'on a tout pu repeindre à cause des champs de pétrole qui étaient tout près, puis ceux qui sont au large, là, qu'on évoquait tout à l'heure, ce fameux puits qui a brûlé, il y a eu des centaines de plateformes qui ont été placées en pleine mer, comme cela, et puis ensuite il y a eu la baisse du prix du pétrole, donc là, je dirais qu'actuellement, elle souffre de nouveau d'un certain abandon et que finalement, ce qu'on ressent, c'est surtout l'impression de plonger dans ce passé colonial parce que ça a été une tête de pont pour toute la conquête espagnole du Yucatan, ça, un peu comme Champoton tout à l'heure. Mais en fait, c'est une ville qui a été fondée par ce fameux Francisco de Montejo, je crois dans les années 1540. Et c'est lui qui a fondé d'ailleurs non seulement l'église de San Francisco, mais encore ce qu'on appelle le cabildo, c'est la municipalité, tous les bâtiments qu'on trouve encore sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été le principal port du Yucatan. Donc pendant la colonie, tout passait par là. Et tout ce qui venait naturellement du golfe du Mexique, qui partait vers Veracruz, qui revenait, s'arrêtait à Campeche. Alors vous me voyez venir. Qu'est-ce qu'on peut aimer quand on vient de l'extérieur? Ben, c'est justement le fait de pouvoir prendre cette ville. Donc les premiers qui vont arriver après les Espagnols, c'est les pirates. Ces fabuleux pirates qui s'étaient réfugiés sur une île qui s'appelle l'île de Tris. Aujourd'hui, elle s'appelle Carmen. Elle est un peu plus bas sur la carte, en dessous de Campeche. Et ils vont essayer de la mettre à sac. Enfin, ils ont réussi même plusieurs fois à attaquer cette ville. Et c'est seulement, dans les années 1600, soit à la fin des années 1600, 1680, quelque chose comme ça, il y a eu le fameux Laurent de Gaffe, vous savez, qui venait carrément...
Français ?
Oui, c'est un Français. Il y a eu beaucoup de pirates et de flibustiers comme ça qui faisaient partie de la...
Mais venaient des Caraïbes.
Des Caraïbes, ou carrément du Golfe, ou même plus haut. On l'appelait Lorencillo au Mexique, ce monsieur Laurent, bien sûr. Et il a massacré toute une partie de la population de Campeche. C'est un souvenir assez cruel. Et alors là, il y a eu une réaction.
Pour prendre
bien
le
sûr.
Pouvoir
Non, simplement pour mettre à sac la ville et ramasser un maximum de choses. C'est vraiment l'image du pirate à la Walt Disney. Hein. On attaque tout, on rase tout, on brûle tout. Et la première idée qu'on a eue à la fin de ces années 1600, c'était de construire une enceinte. Alors, elle est toujours là, dans la mesure où, à partir des années 1660-70, eh bien, on a décidé que Campeche devait résister à l'assaut des pirates. Alors, c'est ce qu'il faut vraiment visiter. Il y a la cathédrale où il n'y a pas grand-chose, il y a cette église de San Francisco.
Mais elle n'était pas défendue, il n'y avait pas l'armée, il y avait
écoutez, quand, à l'époque de la colonie, on ne pensait pas du tout être attaqué. Les Espagnols étaient chez eux complètement et n'imaginaient pas que ce système de piraterie allait fonctionner si fort et si bien. Veracruz a été menacée, toutes les villes, je dirais même... Lima, à l'autre bout du monde, a été menacée par Drake, qui a fait le deuxième tour du monde en passant carrément par le bas. C'est vous dire que c'était une époque très particulière où tout à coup les Hollandais, enfin les Français, les Anglais bien sûr, s'y sont mis pour attaquer ces galions espagnols qui rentraient avec des richesses incroyables. Donc ça, c'est vraiment une époque et à Campeche, on ressent vraiment cette ambiance quand on se promène sur les remparts de cette ancienne enceinte urbaine. Il y a ces chauguettes, ces vieux forts espagnols, vous savez, cette allure qu'on imagine à San Juan de Puerto Rico, enfin toutes ces îles et ces endroits qui font rêver, eh bien Campeche, c'est un peu cela. Et il faut se balader, vraiment prendre des heures pour suivre ces fortifications, et je sais pas, en partant de la Puerta del Mar, la porte de la mer, et puis en se rendant comme cela sur tous ces promontoires, on a une ambiance et une impression qui reste peut-être la plus forte. On ne le voit pas tout de suite, mais ça vaut la peine de suivre les voies. Et puis de se dire, je veux voir les fortifications hispaniques de cette ville. Et puis on oublie un peu son hôtel un peu trop moderne ou son endroit un peu déglingué. Et là, finalement, on retrouve une histoire. Et Campeche, c'est ça. Et là, tout à coup, vous avez le bois, vous avez l'exportation, vous avez tout à coup dans votre tête, là, juste à l'horizon, sur cette mer qui est toujours aussi grisâtre et brune, ben vous avez peut-être une caravelle qui s'est perdue.
On se retrouve.
Je vous vois les yeux perdus dans le lointain. On se retrouvera dimanche prochain, on changera peut-être de sujet, ou on en reprendra peut-être un autre, ou on en reprendra tout simplement un qu'on a déjà eu. Pourquoi pas?